le monde de la perception, c'est-à-dire celui qui nous est révélé par nos sens et par l'usage de la vie.
Au départ, il y a un dégradé. Un dégradé de la pratique de la bicyclette en Europe. Quand le Danemark et les Pays-Bas comptent 25% de cyclistes au quotidien, la Belgique en compte 10% et la France 2%. Il y a aussi une intuition. Une intuition qui est que technique et comportement entretiennent un lien étroit. Dans mon cas, cette technique est celle du freinage par rétropédalage. Ensuite, il y a une expérience. Celle que j'ai pu faire en me rendant à Copenhague, au Danemark, en juin 2018. Une expérience qui m'a laissé l'impression d'avoir vécu la ville plutôt que de l'avoir traversée. Et puis finalement, il ne reste que des questions. Que faisons-nous de la technique et que fait-elle de nous en retour? En quoi le freinage par rétropédalage est une technique singulière? De quoi est-ce l'expression? Que révèlent nos modes de déplacement sur notre régime d'attention au monde? Que font-ils à notre perception de l'environnement? Pour mener mon enquête, essayer de comprendre ce qui est filtré à la frontière, j'ai décidé de me rendre dans l'agglomération la plus au nord de l'Hexagone, la métropole européenne de Lille. Je suis allé à la rencontre de François, un mécanicien autodidacte, de Nicolas, Louise et Mathilde, des partisans de la sonnette, d'Hermann, un industriel frontalier, d'Aurélien, un neurobiologiste de l'anxiété, de Sébastien, un rétropédaleur convaincu, d'Isabelle, une présidente militante, d'Anne, une écolo perplexe, et de Mathias, un technicien de la démotorisation. Mais pour commencer, on met la gomme au placard.
C'est gratuit, par contre, si on change de la chambre à air, faut lâcher 3 euros.
Je vais chercher les vélos.
D'accord, je vous invite à vous. Merci beaucoup.
En fait, le frein rétropédalage, c'est un frein entièrement mécanique. C'est un écrou et un contre-écrou qui, en pédalant en arrière, tu serres le contre-écrou sur l'écrou et ça empêche la roue de tourner.
François, mécanicien de l'association Bus à Biclou.
Et du coup, ces mécaniques, ça s'use très 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 doucement par rapport à un frein qu'on a classiquement en cantal levers ou en V-brake.
Un frein à jante, quoi.
Sur jante, c'est ça dépend de la qualité de la gomme du frein et de la jante, quoi.
Là, c'est devant qui est...
Si ton frein rétropédalage est bien installé au départ, t'as pas besoin de le changer. Le downsize, donc le côté inconvénient, donc t'as même pas besoin de régler. Je veux dire, ça se dérègle pas, ça reste tel quel, quoi. Y a vraiment pas de problème. Le côté compliqué, c'est quand il s'agit d'entretenir les parties roulantes.
En dérapage. En dérapage.
Regarde ton pneu. Neuf.
Là, tu pourras déraper.
Non. Moi, je vais desserrer.
Ah, tu vas faire des malheureux. Cher, hein. Tu vas faire des malheureux.
Faut rouler en anticipant. C'est ce qu'on doit faire normalement à vélo, mais on doit le faire particulièrement plus avec le rétropédalage parce que c'est pas un système de frein qui réagit aussi rapidement que qu'à appuyer sur les. Les pédales, il faut prendre le temps de pédaler en arrière. Et si on veut vraiment freiner, il faut mettre du poids avec.
Et tu fais des vélorussions? C'est quoi? Ce soir, si tu veux, il y a vélorussions à Lille.
Ah ouais?
C'est quoi? 19h, rendez-vous grand place.
Et qu'est-ce qui se passe?
C'est un rassemblement de cyclistes. Et en fait, on s'impose sur la route après. D'accord.
Comme on est une trentaine, là, au mois de juin, on est une trentaine. C'est pour ma...
Sur les conseils de François, je me rends à la Vélorution. J'y rencontre Nicolas, Louise et Mathilde, qui sont des rétropédaleurs, occasionnels ou au quotidien. Je leur demande comment ils perçoivent le rétropédalage et pourquoi ils préfèrent ce mode de freinage.
C'est plus confortable à petite vitesse.
À petite vitesse,
ouais.
Pourquoi ?
Parce qu'après, quand tu essayes d'aller plus vite, j'ai l'impression que ça freine moins bien que...
Et du coup, ça a un impact sur ta conduite
Bah, c'est sur un vélo que j'utilise pour les balades et plutôt que pour en ville. C'est qu'en ville, comme ça, je préfère m'arrêter rapidement que dans une voiture.
Et c'est un avoir... Tu penses que s'il y avait des infrastructures un peu différentes, ce serait...
Ouais, ce serait plus agréable. Bah, j'habitais à Strasbourg avant et j'avais un vélo à rétropédalage et j'avais aucun souci là-bas avec toutes les pistes sont cyclables. Enfin, tout est séparé de la rue et tout. Jamais je me disais, est-ce que je prends ce vélo-là ou pas ? Alors qu'ici, à Lille, je préfère prendre avec des vrais freins.
Ouais, je préfère parce que au final, ça me permet d'anticiper vachement plus. Donc regarder vachement plus autour de moi parce que je peux pas faire un freinage d'urgence, par exemple. Ça va être forcément 2-3 mètres pour m'arrêter plutôt qu'en arrêt immédiat.
Bah, je sais pas, vu que t'as une conduite un peu différente, moins agressive avec un vélo à rétropédalage, je trouve que oui, je sais pas, tu regardes plus la route, je sais pas. Puis c'est un côté rétro aussi marrant de faire du rétropédalage. C'est juste un peu embêtant quand tu t'arrêtes, faut réfléchir à comment tu mets tes pieds. Pour redémarrer des fois, si t'es pas dans le bon sens, c'est pas l'idéal.
Mais si le rétropédalage est plus fiable, plus confortable, pourquoi il n'y avait que Louise qui avait un vélo de ce type ce jour-là ? Pour éclairer ce mystère, je me dis qu'aller voir un industriel du vélo pourrait m'aider à comprendre pourquoi ce type de frein est si peu répandu. Je rencontre Herman, directeur de la branche vélo urbain pour la marque Between.
Donc la capacité de ralentir le vélo est testée avec des machines. Et le système de freinage, rétropédalage, on m'a toujours dit ici que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à passer les normes, en fait. Donc, eux le vendent souvent sur un marché local, mais nous, comme on fait un modèle qui doit se vendre partout en Europe, c'est quand même une vraie contrainte. Et après aussi, aujourd'hui, avec le rétropédalage, on ne peut pas mettre un dérailleur. Et donc, on peut y mettre que système de vitesse dans le moyeu, qui coûte relativement cher aussi. Le Danemark, c'est un pays très plat, peu vallonné, et donc a besoin de vitesse faible. La France, c'est un peu plus vallonné que le Danemark, quand même. Donc il y a un besoin de vitesse plus important, enfin un nombre d'écartements de vitesse plus important. Et au Danemark, je pense que le prix de vente moyen d'un vélo, c'est 700 euros, quelque chose comme ça.
Mais le rétropédalage, ça vient d'où ? Le freinage par rétropédalage a été inventé en Bavière en 1903 par le mécanicien puis ingénieur Ernst Sachs. Ernst, cycliste à 16 heures, part du constat que les freins sur jantes sont moins efficaces par temps de pluie. Il décide de mettre au point un système dont le mécanisme de freinage serait à l'abri de l'eau. Il l'intègre dans le moyeu arrière de la roue. En parallèle, le développement du roulement à billes lui permet de mettre au point la roue libre. Un progrès à l'époque parce qu'auparavant, le pignon et la roue étant solidaires, il fallait pédaler sans arrêt. La topographie de la France et de l'Allemagne n'étant pas si différente, elle ne pouvait pas être la seule raison qui explique cette absence. Et qu'en est-il du dérailleur ? Le freinage par rétropédalage, c'est un ballon de baudruche à l'intérieur d'une boîte de conserve vide. Imaginez, vous prenez une boîte de conserve et vous percez un trou dans le fond. Vous passez ensuite un ballon de baudruche en gardant la valve à l'extérieur. Quand vous aspirez l'air du ballon, celle-ci se rétracte contre la paroi. Et quand vous faites tourner le ballon, la conserve tourne aussi, Si vous laissez l'air à nouveau rentrer dans le ballon, la conserve continue de tourner, alors que le ballon reste statique. Enfin, si vous gonflez le ballon, il vient frotter contre l'intérieur de la conserve et freine son mouvement jusqu'à ce que celle-ci s'arrête. C'est à peu de choses près ce qui se produit lorsque l'on utilise un frein à rétropédalage. À la différence que les actions sont pédalées, être en roue libre et rétropédaler. Pour que toutes ces actions soient possibles, il faut que le moyeu arrière soit complètement dédié au freinage. Mais la cassette de dérailleur est installée au même endroit. Il n'y a donc pas assez de place pour que ces systèmes cohabitent. Le frein par rétropédalage est l'illustration de ce que le sociologue Gilbert Simondon appelle la concrétisation des objets techniques.
Quand un objet est fermé, cela signifie qu'il est une chose, mais une chose qui est complètement neuve et complètement valide au moment où elle sort de l'usine, et puis après, elle entre en une sorte de période de vieillissement. Elle se déclasse, elle se dégrade, même si elle ne s'use pas. Elle se dégrade parce qu'elle a perdu, à cause de sa fermeture, le contact avec la réalité contemporaine, l'actualité qui l'a produite. Tout au contraire, si l'objet est ouvert, c'est-à-dire si le geste de l'utilisateur, d'une part, peut être un geste intelligent, bien adapté, connaissant les structures internes, si d'autre part, le réparateur, qui d'ailleurs peut être l'utilisateur, si le réparateur peut perpétuellement maintenir neuves les pièces qui s'usent, alors il n'y a pas de date, il n'y a pas de vieillissement.
Cette distinction que fait Gilbert Simondon entre objet ouvert et objet fermé est au cœur du concept de concrétisation. Dans le cas du frein de vélo, le frein que l'on dit surgent est un objet ouvert ou abstrait, car toutes les pièces qui composent le système sont indépendantes. Le frein par rétropédalage, lui, est un objet fermé ou concret, car toutes les pièces du système sont interdépendantes. Il est admis que les objets techniques concrets sont plus fiables mécaniquement. C'est dû à leur état, fermé, qui a pour but de garantir leur fonctionnement et en quelque sorte d'assurer une tranquillité d'esprit à l'utilisateur. La question qui se pose, c'est comment l'utilisateur s'accommode de la passivité qui est provoquée par l'opacité du système. Dans quelle mesure ne s'agit-il pas d'une stratégie du fabricant pour s'assurer la captivité d'un client ? En fin de compte, à qui profite la concrétisation des objets techniques ? Qui plus est, lors de mes rencontres, j'ai souvent entendu les mots d'anticipation, de concentration, d'attention, qui seraient dus à une distance de freinage plus importante. Mais comment évaluons-nous cette distance ? Y a-t-il des informations qui nous incitent à freiner ? Quels sont les mécanismes cognitifs qui entrent en action lorsque nous devons réagir ?
Thank you. Allô ?
Aurélien, médecin anesthésiste et chercheur en neurobiologie.
Quand tu es conducteur, donc que ce soit à vélo ou d'autres moyens, comme tu l'as dit, tu vas essayer d'anticiper. Déjà, anticiper, c'est une tâche qui est hautement cognitive, proprement quasiment seulement humaine, quoi. Et pour freiner, bah, il faut te dire que dans 100 mètres, tu as un feu rouge et que bah, tu vas peut-être devoir freiner parce qu'il ne va pas passer ouvert. La volonté de freiner, et ben, c'est quelque chose de réglé très finement. Ça, c'est, on va dire, le freinage qui ne sera pas le freinage réflexe. Et ça, ce sera, à mon avis, très dépendant du cortex préfrontal, qui a des influences multiples. Par exemple, tu as des personnalités de gens qui vont freiner au dernier moment, d'autres qui vont arrêter d'accélérer dès qu'ils voient un feu rouge. Et donc, ça, c'est, voilà, c'est hautement régulé et c'est un mécanisme très, très complexe. Alors, donc ça, je pense que c'est le premier type de freinage. Le deuxième type de freinage, ce serait plutôt un freinage réflexe, où bah, y a un obstacle qui vient devant toi et tu dois freiner pour l'éviter. Et ça, c'est des mécanismes déjà un petit peu plus réflexes, mais qui font quand même intervenir bah, la vision, ensuite qui va dans le lobe occipital, qui renvoie l'information processée également dans le lobe frontal, mais pas les mêmes circuits, et qui envoie au centre moteur, au cortex pariétal moteur, l'ordre de freiner. Et là, ça, c'est un circuit qui va être beaucoup plus rapide, probablement moins influencé par les facteurs de personnalité et qui font que tu vas freiner.
Ce que m'explique Aurélien, c'est que lors d'une situation de freinage, ce qui est sollicité, c'est notre attention. Les travaux de Jean-Philippe Lachaud, directeur de recherche en neurosciences cognitives à l'INSERM, permettent de comprendre ce mécanisme cognitif. Lors d'une boucle perception-action, notre choix va être orienté par trois systèmes. Le premier est le système exécutif, ou l'attention volontaire, celui qui permet de poursuivre un but ponctuel. Ce sont des tâches qui demandent souvent une concentration intense. Le second est l'habitude, ou l'attention involontaire, celui qui sera à l'origine de mes réflexes, comme tourner la tête avant de traverser la rue. Le troisième est le circuit de la récompense, qui va libérer de la dopamine et provoquer une sensation de plaisir. C'est la balance entre ces trois systèmes qui composent notre attention. Cet équilibre est fragile, et lorsque l'un des systèmes est épuisé, ce sont les autres qui prennent le relais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le freinage par rétropédalage encourage à un comportement de concentration, alors que les freins à levier incitent davantage à se fier à ses réflexes. En nous demandant plus d'efforts d'attention, le rétropédalage nous force à élargir la perception que nous avons de notre environnement. Au-delà de notre attention, y a-t-il une différence si on freine avec les mains ou avec les pieds ?
Ben non, je pense qu'il n'y aurait pas de différence parce qu'en fait, c'est une tâche qui s'apprend. Et petit à petit, tu transfères de l'apprentissage, donc demande beaucoup de ressources au début. Et petit à petit, les mouvements sont transférés vers les structures les plus archaïques et qui vont répondre le plus rapidement. Par exemple, tu vas apprendre une tâche motrice. Au début, tu vas être très lent et petit à petit, en fait, tout cela va être géré quasiment par du cortex beaucoup plus primaire et le cervelet et des tâches beaucoup plus postérieures avec des structures plus anciennes neurologiques. Et en fait, que tu freines à la main ou avec les pieds, je pense que ça arrive dans ces deux structures-là. De la même manière que bah, tu pourrais très bien freiner en moto avec les pieds ou en voiture avec en moto avec les mains et en voiture avec les pieds. En revanche, là où peut y avoir une différence, c'est peut-être que l'apprentissage de la tâche se veut plus difficile parce que si tu pédales dans un sens et que tu dois aller dans l'autre sens, ça me paraît être peut-être moins intuitif, mais bon, c'est peut-être ma vision, mais ça paraît moins intuitif que la personne qui freine avec les mains, qui est un geste totalement différent, beaucoup plus accessible, et tu fais juste une pression de la main et ça suffit pour freiner.
Sébastien, chargé de concertation pour l'association Droit au vélo.
Moi, j'étais plutôt défavorable à ce mode de freinage. Je pense que j'ai été un petit peu aussi influencé par une idée générale en France qui veut que le rétropédalage soit un peu rétro, hein, un peu vieux. Et en fait, je l'ai redécouvert dernièrement en équipant mes enfants de vélo. C'est vraiment l'inverse de ce que je pensais, c'est que au contraire du frein à main qui semble aller de soi, bah, le rétropédalage en fait est très adapté pour ces jeunes âges parce qu'il permet tout de suite d'avoir une pression forte. Alors déjà on arrête de pédaler, enfin on pédale plus pour freiner. Les enfants parfois la coordination des gestes n'est pas évidente, hein, jusqu'à 7-8 ans c'est très compliqué. Enfin c'est des calculs qui se passent au niveau du cerveau qui sont pas évidents, on s'en rend pas compte en tant que qu'adulte, mais c'est beaucoup de travail cognitif. Et du coup, le fait d'être obligé de pédaler en arrière, ça veut dire qu'on pédale plus en avant, parce qu'il y a des enfants qui parfois continuent de pédaler alors qu'ils freinent, et donc ça facilite pas le freinage. Et on a beaucoup plus de force dans les pieds que dans les mains. Chercher la poignée, c'est pas toujours évident, elle est pas toujours bien adaptée au niveau de la distance avec par rapport à la petite taille des mains. Souvent c'est même pas adapté au niveau puissance pour donner une puissance suffisante pour freiner.
Avec ce que nous avons entendu, il semble que la thèse la plus vraisemblable soit celle de Sébastien. Le freinage par rétropédalage demande une plus grande concentration. Il est donc possible qu'il soit intégré plus rapidement. En plus, il ne demande pas de dissociation. Les mains sont sur le guidon et conduisent la trajectoire, pendant que les pieds gèrent l'allure. En fait, ce qui se montre, c'est que la plasticité neuronale des enfants leur permet d'apprendre des tâches plus facilement qu'un adulte. Par conséquent, il est peu probable que le freinage par rétropédalage soit moins intuitif pour eux. Si ce mode de freinage est plus adapté à la pratique des enfants, j'en viens à me demander pourquoi ils n'équipent pas tous les vélos pour cette tranche d'âge. Mais dans ce que dit Sébastien, il y a un élément de réponse. Quand il présente le rétropédalage, il le décrit comme rétro. Comme si le fait d'utiliser ses pieds pour freiner n'était plus adapté à notre époque. En fin de compte, la technique s'accompagne de gestes qui lui sont propres. Quand la technique périclite, les gestes qui la caractérisent tombent en désuétude. Les gestes sont ce qui disparaît en premier quand une nouvelle technique est adoptée. Mais au fait, qu'en est-il de la pratique de la bicyclette par les enfants en France ?
Plus aucun enfant se déplace à vélo, en tout cas pour le déplacement, après pour le loisir c'est moins vrai, mais... Et donc du coup, c'est complètement abandonné, et donc on se retrouve avec des générations qui n'auront jamais fait de vélo en milieu urbain, enfin en situation réelle, et donc on va encore perdre. On n'était déjà pas à beaucoup, hein, moins de 2%, alors qu'aux Pays-Bas, c'est 80% des enfants qui se rendent à l'école à vélo. Et ça continue de baisser, quoi. Donc là, vraiment, c'est pas fini. On avait des espoirs au niveau national avec le plan vélo, mais là, qui est en train d'être enterré complètement. Donc l'éducation nationale apparemment freine des cas de fer, parce qu'ils veulent pas... Ils veulent pas avoir à lancer une nouvelle pédagogie par rapport au vélo. Enfin, on est prêt à ce que les enfants sachent nager, mais par contre, faire du vélo, on abandonne complètement. Donc c'est vraiment c'est détestable. On prend encore des années de retard.
Ce qui se révèle au travers de ces différents entretiens, c'est que le freinage par rétropédalage fait appel à une ressource qui est devenue rare. Comme l'explique Yves Citon, professeur de littérature et médias à l'université Paris 8, et co-directeur de la revue Multitude.
L'économie de l'attention renverse des présupposés habituels de l'économie orthodoxe ou de l'économie dont on a l'habitude, laquelle d'habitude s'occupe de la production. Qu'est-ce que c'est que l'économie ? C'est d'essayer de produire quelque chose en économisant les ressources rares qui sont l'énergie, la matière première, le travail, etc. Alors l'économie de l'attention développe une intuition qui est qu'aujourd'hui, dans toute une série de domaines, la ressource la plus rare, elle est moins localisée du côté de la production que du côté de la réception. Et c'est pas un hasard si la notion émergeait vers 1996, c'est le moment où l'Internet se met en place, et on sait tous qu'avec Internet, avec ce qui est disponible par exemple aujourd'hui sur YouTube ou autre, il y a plein de choses qui sont disponibles qui, du point de vue du spectateur, ne coûtent rien, ou presque, mais qui lui posent le problème, qu'est-ce que je vais regarder? C'est mon attention qui devient la ressource rare. Il y a 150 ou 150 000 ou des millions de choses que je pourrais voir, que j'aimerais voir, auxquelles j'ai accès sans avoir à payer. Et donc, la ressource rare devient du côté de la réception et non plus du côté de la production. Ou autant, disons, que du côté de la production.
Ce changement de paradigme établit un lien flagrant entre attention et apprentissage. Et ce faisant, nous permet de comprendre pourquoi ce mode de freinage semble être plus contraignant. Mais le fait d'être plus attentif ne serait-elle pas la meilleure garantie d'éviter un obstacle inopiné? D'autre part, Aurélien soulève un autre phénomène cognitif qui pourrait être associé au rétropédalage.
Ce qui serait intéressant de comprendre si rétropédaler veut dire pédaler en arrière en continuant à avancer, parce que normalement aujourd'hui ce que je fais quand je suis sur un vélo, si je veux rétropédaler, je rétropédale mais je continue à avancer, ce qui auquel cas fait intervenir dans ton cerveau une discordance. Et alors là, ça c'est... Il y a un phénomène neurobiologique associé à la discordance, qui s'appelle la mismatch. Quand tu fais quelque chose de régulier et qu'il y a un signe irrégulier, il y a même une analyse électroencéphalographique qui se fait sur ça. Mettons que tu donnes quatre fois le même son à quelqu'un et que le cinquième soit différent, alors tu as une réponse corticale qui identifie la différence. Et auquel cas, rétropédaler peut faire un peu appel à ce mécanisme-là.
Ce concept existe aussi en psychologie sociale, discipline dans laquelle il porte le nom de dissonance cognitive. La dissonance cognitive a été théorisée en 1957 par le psychosociologue américain Léon Festinger. Elle illustre la tension qui se crée quand nos croyances, émotions et attitudes, autrement dit nos cognitions, entrent en contradiction l'une avec l'autre. Léon Festinger identifie trois cas de figure possibles. D'abord, la relation consonante, quand nos actes sont en accord avec notre cognition. Je rétropédale et donc je ralentis. Ensuite, la relation non pertinente, quand nous réagissons à une tension cognitive avec des actes qui n'ont pas de rapport avec celle-ci. Je rétropédale, mais mon allure ne change pas. Enfin, la relation dissonante, c'est-à-dire quand nos cognitions entrent en opposition et que nous devons faire face à une double contrainte. Je rétropédale, mais j'accélère. Dans les faits, il me semble que la bicyclette est autant un objet technique qu'un objet social, dans la mesure où nous le conduisons à la rencontre de l'autre. J'ai même envie de dire que dans le cas des enfants, la bicyclette est un prolongement de la socialisation primaire, car elle dispense des apprentissages qui sont explicites et implicites. Bien sûr, quand on apprend à pédaler, on fait travailler son sens de l'équilibre et on améliore ses capacités motrices. Mais on apprend aussi à se repérer, à faire travailler son sens de l'orientation. Et puis, la bicyclette, c'est le premier moyen de transport que l'on a et avec lequel on acquiert une autonomie. Cette autonomie de déplacement s'accompagne de l'intégration des règles de circulation, mais aussi des réflexes à avoir dans ce milieu. Pourquoi la part modale de déplacement à vélo est-elle plus importante dans les pays où le rétropédalage est répandu? Quel est le rôle des pouvoirs publics en matière de politique de transport? Comment peuvent faire les collectivités pour redévelopper la pratique de la bicyclette?
regarde loin devant moi. J'essaie de savoir si la voiture est loin derrière moi en écoutant. Je regarde les gens qu'il y a sur le trottoir. Il y a un mec qui sort de son camion, je l'évite. Je freine. Je regarde à gauche et à droite, je tourne à droite. J'arrive à un feu. Il y a des voitures qui sont à l'arrêt. Je les double par la droite. Je m'arrête au feu, je freine. Je pose le pied droit à terre.
Isabelle, présidente de la Maison des associations de Roubaix et cofondatrice de l'association Bussabiclou.
Tout simplement des marquages au sol qui soient efficaces pour pas que les gens se disent « la voiture elle va aller sur mon territoire ». Il faut que le marquage soit vraiment clairement identifié, que chacun a son territoire et que la voiture n'empiète pas sur les pistes. Non, ça c'était impossible pour eux, ils ne l'entendaient pas. C'était le cycliste, notamment quand on leur disait « mais les enfants, comment voulez-vous qu'on ose les envoyer en tant que parents ?» C'est impossible. Envoyer des enfants à l'école en vélo, même des lycéens en vélo, comment voulez-vous qu'on ait confiance ? C'est impossible. Ah oui, mais il faut que les jeunes, ils apprennent tout de suite les dangers de la route. Donc, il faut qu'ils apprennent tout de suite qu'ils sont dans le même terrain que les voitures et qu'ils apprennent à gérer les voitures. Alors, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être aux véhicules voitures qu'on apprenne à respecter les vélos. Non, c'est tout de suite, il faut qu'ils apprennent les dangers de la route et qu'ils soient en situation de maîtriser les dangers.
Anne, élue écologiste, adjointe au maire de Lille, déléguée aux droits des femmes et aux vélos.
Mais après, est-ce qu'il faut faire que des pistes ? Voilà, les bandes cyclables, c'est aussi cet espace qui est la rue, qui est partagé entre les cyclistes et les automobilistes. Et pourquoi ne serait-il pas, pourquoi chacun n'aurait pas sa juste place ? Voilà, parce que la piste cyclable, en général, ça prend aussi peut-être aux piétons. Hein.
Sébastien, chargé de concertation pour l'association Droit au vélo.
Le biais, c'est de penser qu'à partir du moment où on va privilégier le vélo, ça va se faire au détriment des piétons. Alors c'est vrai pour une partie d'entre eux, puisqu'en fait, à partir du moment où on développe des aménagements cyclables, les piétons vont plus se déplacer à vélo pour des distances un peu plus longues. Mais du coup, on va aussi faciliter le non-recours à la voiture, enfin en tout cas empêcher le recours à la voiture pour des distances qui permettraient pas de le faire à pied, parce qu'on peut le faire à vélo. Du coup, pour moi, il faut vraiment pas opposer les modes et au contraire les penser globalement. En tout cas, ces deux-là, les mettre vraiment en avant et de manière concertée. Donc, je suis pas opposé non plus ce que fait pas du tout le Danemark, ce que fait peut-être déjà plus les Pays-Bas, aux aménagements un peu partagés en fait entre piétons et cyclistes. Parce que pour moi, il y a quand même pas mal de choses qui nous permettent aussi d'avoir des espaces beaucoup plus confortables à partir du moment où c'est partagé.
Ce que nous percevons dans nos rues, ce balai désynchronisé, le déséquilibre des corps en mouvement, peut finalement se résumer à une lutte de pouvoir pour l'espace public. Ce que j'entends, c'est que l'opposition des modes de déplacement se matérialise dans les infrastructures urbaines. L'offre croissante des moyens de transport engage ceux qui font la ville à chercher de nouveaux aménagements pour apaiser la cohabitation. Mais les espaces partagés, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient ? La théorie du shared space a vu le jour en 1970 aux Pays-Bas. Elle est issue des travaux de l'urbaniste Hans Mondermann, qui en explique les origines.
Et donc, les 10 premières années de ma carrière, je n'ai rien fait d'autre qu'analyser les accidents. J'analysais les accidents à partir des chiffres et des informations que nous fournissait la police. Et la question était simple. Comment cela se produit-il ? Comment est-ce possible que les gens aient des accidents alors que personne ne dit avoir d'accidents ? Qu'y a-t-il derrière ces accidents ? Au cours des premières années, la première chose que j'ai apprise, c'est qu'il n'y avait rien à faire avec notre signalisation. Il n'y avait rien à faire avec les voitures. Les problèmes ont toujours lieu quand les gens utilisent des voitures. C'est à ce moment que les accidents se produisent. Mais les voitures n'ont pas d'accidents toutes seules. Et quand vous regardez la signalisation de cette époque, elle ne s'adresse jamais aux êtres humains, mais aux voitures. Il est toujours question d'accélération, de décélération, de direction ou de la taille des voitures, mais jamais des possibilités que les êtres humains ont. le facteur humain était complètement négligé. Encore aujourd'hui, vous pouvez passer votre permis de conduire aux Pays-Bas et vous ne rencontrerez jamais le fait d'être humain. Il est toujours question d'être conducteur. Cette manière de voir les choses est complètement orientée par la technique. Mais quand vous regardez les accidents, il y a toujours des gens qui sont impliqués. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. En fait, c'est la découverte du facteur humain dans la circulation et de comment nous pouvons apprendre à organiser l'espace pour faire que les gens soient plus conscients du fait qu'ils doivent adapter leur comportement aux autres usagers de la route et faire plus attention.
Les premières expérimentations de route nue ont été menées à Drachten. Dans cette ville du nord des Pays-Bas, on a enlevé la signalisation des carrefours les plus dangereux. À la place, les croisements ont été peints en rouge avec comme intention de contraindre les usagers de la route à porter plus d'attention aux autres. Cette approche, qui peut paraître contre-intuitive, vise à favoriser un sentiment de vulnérabilité à un sentiment de sécurité. Quelles sont les autres conséquences de ces aménagements? Et que se passe-t-il quand on réduit l'accès des voitures au centre-ville? François, mécanicien de l'association Bus à Biclou.
Alors que le fait d'avoir une politique intéressante et encourageante au niveau du vélo redensifie les centres-villes. Hein, je veux dire, regarde, toi tu connais l'exemple de Copenhague, j'ai l'exemple d'Utrecht où j'ai vécu. Mais le centre-ville, il est vivant et c'est un super plaisir d'y aller, de se balader, de flâner. Ça pue pas, ça fait pas de bruit. À part le clinking, je veux dire, c'est pas agressif comme un gros pouet. Donc voilà, non. Et il y a des shops, il y a plein de shops, il y a des primeurs qui sont remis dans le centre-ville. Il y a pas que des vendeurs de téléphones ou des banques. Il y avait même des shops de hi-fi, il y avait des shops, tu vois, des shops de basket dans le centre-ville. Que tu regardes dans le centre-ville de Lille ou. Bon bah c'est triste quoi, à part des Fnac et des gros trucs comme ça, t'as pas quoi. Non, là il y avait encore des petits shops quoi. C'est grâce au vélo. Parce que si tous tes shops ils vont à l'extérieur, si tu te balades en voiture tout le temps, c'est pas dérangeant de faire aux gens 15 bornes pour aller faire leurs courses dans les supermarchés qui sont en périphérie des villes. Mais par contre, vélo ça tu le fais pas. Mais tu fais ton shop en rentrant du taf. Hein, tu peux t'arrêter, faire acheter tes deux sandwichs, ta baguette, et le mettre sur ton porte-bagages.
L'expérience de François fait écho à un phénomène social qui n'est pas nouveau, mais qui fait l'objet depuis 2010 de nombreuses recherches. Il s'agit de la décroissance urbaine. Pour comprendre les mécanismes qui engagent la détérioration du tissu urbain, il faut s'intéresser à des villes comme Roubaix ou Dunkerque, c'est-à-dire des villes de taille moyenne qui comptent entre 20 000 et 100 000 habitants. Du fait de leur passé industriel, elles ont subi les crises des années 1960, 1970, 1980. La décroissance économique se suit d'un déclin démographique et de la paupérisation des immobiles, incapables de suivre les flux économiques. La sous-représentation de classe sociale amorce un cercle vicieux dans lequel l'économie présentielle s'affaiblit. L'économie présentielle est une notion qui a été développée par Laurent Davézy et Christophe Terrier. Il s'agit de l'économie générée par les personnes présentes sur le territoire. Elle regroupe les services à la personne, les commerces et les services publics. Cette régression est renforcée par la périurbanisation, elle-même responsable du flétrissement des aires urbaines, du morcellement de la ville. Aux Pays-Bas, le vélo n'est pas le seul facteur qui a tenu à distance la périurbanisation. La géographie du pays a obligé rapidement les pouvoirs publics à adopter des typologies de villes compactes, centrées sur un noyau, qui a favorisé la mise en place d'infrastructures cyclables. Ce qui se montre, c'est que si les localités se délitent, c'est autant sous le poids des aléas économiques que par les inégalités face à la mobilité. Mais si l'enjeu est clair pour les villes en déclin, qu'en est-il pour les métropoles ?
Faire simple, on va dire que toutes les villes et métropoles qui s'engagent dans un développement
moderne, un développement avec une vue d'avenir, ont un volet politique cyclable dans leur projet de développement.
Mathias, direction de la mobilité à la métropole européenne de Lille.
Il y a énormément de raisons, pour en citer une, l'engorgement, ça induit un manque à gagner économique fort pour les territoires, les villes, les métropoles. Pourquoi ? Parce que y a des gens qui vont travailler qui n'arriveront pas à l'heure. Il y a des marchandises qui doivent être transportées qui n'arriveront pas au bon moment. Il y a des livraisons qui ne seront pas honorées, des contrats qui ne seront pas remplis, des missions qui ne seront pas réalisées. Il y a un manque à gagner. L'engorgement, ça crée aussi finalement un climat qui est pénalisant pour l'attractivité d'une ville, touristiquement, en termes de lieu d'habitat, en termes de lieu de travail, en termes de lieu de vie, tout simplement. L'omniprésence de la voiture dans une ville nuit à son attractivité, à son rayonnement. Parmi toutes tous ces éléments assez négatifs qui me servent à peindre un tableau assez sombre d'une ville engorgée, le vélo peut apparaître comme une solution parmi d'autres, mais une solution forte, déjà parce que c'est comme le loto, hein, avec le développer le vélo, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Donc ça, c'est intéressant. Le vélo, ça prend pas énormément de place. On sait que maintenant, les places en ville sont chères. Il y a énormément de places réservées à la voiture, en circulation, mais surtout en stationnement. Et surtout, quand on fait l'expérience de villes qui ont déjà engagé qui sont déjà bien engagées dans une démarche de démotorisation, on s'aperçoit que la ville est bien plus agréable à vivre quand elle est allégée de cette présence automobile.
Alors que les métropoles jouent des coudes pour accroître leur attractivité, elles mettent en œuvre un modèle de développement basé sur la croissance, le progrès, l'entrepreneuriat, l'innovation, lui-même issu de l'économie de marché. Elles se lancent à corps perdu dans l'organisation d'événements pour figurer en bonne position dans le classement de la compétitivité territoriale. Or, cette stratégie de développement mène, dans bien des cas, à la gentrification des métropoles, autrement dit, à l'éloignement des plus pauvres. En adoptant cette stratégie, les collectivités font croître les maux qu'elles combattent. Ce qui apparaît, c'est que le souhait de développer les modes de déplacement doux a avant tout pour but d'éteindre les tensions que l'on entend. Les moteurs qui vrombissent, les nuits qui bourdonnent, les freins qui crissent. Mais si cette intention louable prend comme point de départ l'accroissement, elle remplacera l'agitation des villes par le silence des exilés, la violence de la précarité. Les modes de déplacement ne pourront être source de douceur que s'ils anticipent, s'articulent et ralentissent. En France, le freinage par rétropédalage est un mode de freinage réservé à des initiés. ses adeptes forment une petite communauté, plutôt au fait des différents types de bicyclettes et de leurs caractéristiques techniques. Un des éléments qui permet d'expliquer cette confidentialité, c'est que la norme en général, et en particulier la norme technique, tend à éliminer les alternatives. Elle participe, de fait, à la standardisation culturelle, à l'homogénéisation du monde. Dans un contexte où l'accroissement de la vitesse est la norme, et où se déplacer à vélo fait déjà de vous un militant, utiliser le freinage par rétropédalage constitue un acte d'ultime résistance. Dans mon cas, il est l'expression du refus de la marchandisation de nos régimes d'attention. Certes, il est possible que la distance de freinage de ce système soit plus importante, mais adopter ce point de vue d'une manière dogmatique, c'est ne pas percevoir que sans but, la technique concourt à faire de nous des captifs, que le progrès élimine certaines frictions qui sont indispensables à notre cohésion. C'est ne pas percevoir qu'en incitant à plus de précautions, à plus de conscience de l'autre, ce sur quoi nous choisissons de mettre l'accent, c'est ce qui nous est commun. C'est ne pas percevoir que ce qui est remarquable et effrayant, c'est la faculté de l'être humain à s'accommoder du changement, qu'il soit prévisible ou soudain, proche ou lointain, superficiel ou profond. C'est ne pas percevoir que la vitesse est un facteur d'exclusion sociale. C'est ne pas percevoir que notre inaction face à la dégradation de notre habitat est en partie la conséquence d'injonctions contradictoires qui font de nous des êtres médusés, pris de court par notre propre accélération. C'est ne pas percevoir que nous ne devons pas accepter de réduire nos conditions de vie pour sauver la Terre, mais pour nous prémunir de l'extinction de l'humanité. C'est ne pas percevoir que nous sommes parvenus à une telle vitesse que nous ne voyons plus ce qui bouge, et nous pensons que si rien ne bouge, c'est qu'il n'y a rien à voir. C'est ne pas percevoir qu'à force de précipitation, et bien malgré nous, nous avons réalisé l'exploit de désynchroniser le temps et l'espace, et que nous sommes désorientés. Finalement, c'est ne pas percevoir que le freinage par rétropédalage est une boucle. Il révèle un cercle vicieux duquel nous sommes prisonniers. Un cycle dans lequel les dispositifs techniques orientent nos comportements qui, à leur tour, influencent la perception que nous avons de notre environnement et nous incitent à privilégier un dispositif plutôt qu'un autre. Une métaphore de notre conscience du monde. Selon moi, la question qui se pose, c'est comment le modèle capitaliste va-t-il pouvoir s'adapter aux contraintes qui sont apparues avec le changement climatique ? Sera-t-il capable d'identifier des effets de seuil et de faire des propositions en adéquation avec ces derniers ? Ce modèle, le souhaite-t-il seulement ?